Chapitre 11e, la table du grand maître. C'est lui qui prenait encore la direction d'une campagne dont on croyait qu'il ne connaissait pas le premier mot. Prosper le suivait, l'admirant et le regardant avec stupéfaction. Car cette fois, vraiment, il y avait de quoi être abasourdi. Comme on sortait de la villa, Martin Huma toucha doucement à une porte. Julot parut. Lui aussi était vêtu en garde forestier. Sans rien dire, il salua son chef, militairement, et la petite troupe se mit en marche. Quand elle fut sur la route, elle hâta le pas. La course était assez longue et 3 bons quarts d'heure seraient à peine suffisants pour arriver au but à l'heure dite par Philippe. Martin Huma allongeait ses grandes jambes. Prosper avait peine à se tenir à ses côtés. Quant à Julot, il doublait le pas. Mais c'était un marcheur, trapu, solide, avec un coffre infatigable. Il se tenait de l'autre côté du chef, tout fier de cet honneur et reconnaissant de cette faveur qui, pour la première fois, lui était faite. Comme bien l'on pense, Martin Huma, au sortir de la villa, avait allumé sa cigarette. Sans parler, il fumait, marchant de son grand pas, régulier, regardant devant lui, calme, content de cette promenade au petit matin. Tous trois, ils avaient gagné la forêt et maintenant marchaient sous les arbres. Tout à coup, Martin Huma dit à Prosper « Maintenant je sais où nous allons. » Prosper s'écria, étonné « Comment, chef, vous ne le saviez pas ?»« Pas le moins du monde. » « Mais vous nous y conduisiez. Dites plutôt que je vous suivais sans que vous vous en doutiez. »« Oh, chef, comment cela ?» Martin Huma aimait donner à ses hommes l'explication de ce qui les surprenait dans ses actes. « Tout d'abord, je savais que Philippe et vous, vous complotiez quelque chose. »« Pardon, chef, nous voulions. »« Oui, je l'ai bien vu. »« Vous n'étiez pas content de la suite donnée à l'aventure de la grotte. »« Vous ne l'avez pas encore encaissée, comme nous disons. »« Vous ne la comprendrez que quand vous en aurez vu le résultat. » « Mes chefs, je vous assure. »« Non, mon ami, inutile. » »« Alors, n'approuvant pas tout à fait cette affaire, pensant que votre chef se fourvoyait, qu'il était dans l'erreur, qu'il commettait sans aucun résultat des imprudences dangereuses, vous vous êtes dit, Philippe et vous, nous allons nous corriger la chose. »« Oh, chef, nous allons montrer au chef qu'il se trompe, qu'il fait fausse route. »« Lui prouver qu'avec des gaillards de cette trempe, il faut agir autrement, et frapper quelques grands coups. » Prendre un avantage décisif et ne pas lanterner sur une situation qu'on pourrait mener rondement. Nous allons brusquer les choses, chef. Et en somme, faire, nous, malins et avisés, ce que nous reprochons précisément à notre chef, c'est-à-dire commettre la pire des imprudences et risquer notre peau sans aucun résultat pratique. Voilà, mon bon Prosper, voilà ce que vous êtes dit, Philippe et vous. Martin Huma ajouta. Alors, pendant que Martin Huma est occupé avec les représentants de la justice de notre pays, qu'il a des entretiens au salon avec les juges, les gendarmes, qu'il assiste aux perquisitions, qu'il répond aux interrogatoires, Prosper et Philippe s'en vont comploter au bout du parc et à eux deux établissent un plan de campagne. C'est vrai. Plan de campagne qu'ils se garderont bien de soumettre au chef. Plan de campagne qui doit infailliblement réussir. Après la réussite duquel on pourra dire triomphalement au chef qu'il n'y entend rien, que ses lieutenants sont plus forts que lui, oh, et qu'à l'avenir, il ferait mieux de leur laisser conduire toutes les opérations sans s'y mêler, oh, oh. En somme, que puisqu'on le croit défunt, il vaut mieux qu'il fasse réellement le mort. Prosper protesta. Oh, chef, pas du tout. Notre intention n'a jamais été dans cet ordre d'idées, jamais. Alors, que vouliez-vous? Seulement préparer pour vous la prochaine campagne et faciliter autant que possible cette tâche nouvelle. C'est bien. Dit simplement le roi des détectives. Puis au bout d'un moment, il reprit « Maintenant, vous voulez savoir comment j'ai pu deviner que nous irions en forêt, et vers la table du grand maître. »« Oui, chef, pour nous instruire, Julot et moi, dites-le-nous. »« C'est très simple, c'est vous qui m'avez tout révélé. »« Moi ? Vous et Philippe, comment cela ?»« D'abord, j'ai vu dans la chambre de Philippe que seul manquait l'habit de garde forestier qui fait partie des costumes que nous avons ici. » Donc, j'en ai conclu que Philippe se grimait en garde forestier et qu'il irait en forêt, comme lui dit monsieur de la Palisse lui-même. Bien, chef, mais pour savoir l'heure. L'heure? J'ai préparé, quand vous étiez dans sa chambre, un signal. Ah, quel signal? Tout simplement un petit appareil pneumatique en caoutchouc avec un crochet, comme ceux dont on se sert pour suspendre sa glace à barbe en voyage. Je connais. Je l'ai collé, et cela n'a fait aucun bruit au haut de la porte de Philippe. J'ai attaché une ficelle mince et solide au crochet de ce petit appareil. J'ai fait passer la ficelle par la jointure assez large du haut de la porte de ma chambre. Il ne me restait plus qu'à me relier moi-même par ce fil à la porte de Philippe. Rien de plus facile. Je fais une boucle avec l'extrémité de cette ficelle. Cette boucle me tenait les oreilles et le nez et je me suis couché. La ficelle était tendue suffisamment pour ne pas me gêner pendant mon sommeil. Je lui ai donné 60 cm de jeu. Pourquoi 60 cm? C'est ce que demande une porte qu'on ouvre pour donner passage à un homme. Donc, quand Philippe s'est habillé et qu'il est sorti, il a ouvert la porte de la chambre. En ouvrant la porte, il a tiré sur la ficelle. Certes, il a senti une légère résistance. Il a insisté plusieurs fois. Comme il n'avait pas de lumière, qu'il ne devait pas s'éclairer, pour ne pas donner l'alarme, il n'a pu voir ce qui retenait ainsi sa porte. Il a dû croire que c'était un mauvais fonctionnement des gonds. Il a insisté plusieurs fois, donné au volant quelques petites secousses. Ces petites secousses, moi, à l'autre bout du fil, je les percevais. En effet, la douleur que me causait le fil entourant mes oreilles m'avait du premier coup arraché à mon sommeil, qui est toujours très léger. Et si cette douleur des oreilles n'avait pas suffi, la ficelle, passant sous mon nez, l'eût tordue, aplatie, et eût douloureusement encore empêché la respiration. Cette fois, fatalement, vous deviez vous réveiller. Mais c'était déjà fait. Je donnai à la ficelle tout le jeu désirable, et Philippe put se glisser hors de la chambre sans plus d'inquiétude. Prosper ne put s'empêcher de rire. « Chef, comment voulez-vous que nous puissions essayer de lutter contre vous ?» Très calme, Martin Huma reprit. « J'étais prévenir Julot, lui dire de revêtir un costume de forestier. Je suis revenu dans ma chambre. Je comprends. Là, vêtu également en garde, je me suis allongé dans le fauteuil et j'ai attendu tranquillement votre venue. Vous saviez donc que je devais venir ? J'en étais absolument certain. Vous ne pouviez faire autrement. Jamais mon bon Prosper, sachant la maison, à préparer secousse, encore entouré d'ennemis, jamais vous n'auriez abandonné votre chef. Philippe étant absent, vous ne pouviez partir, mon ami, sans me prévenir, sans m'avertir. C'est vrai, chef. D'ailleurs, vous eussiez, emporté par votre désir de bien faire, de me ménager une bonne surprise, vous eussiez voulu partir, aller rejoindre votre compère Philippe sans rien me dire, que vous ne l'auriez pas pu. Oh ! La ficelle est non seulement indispensable au théâtre, mais aussi très utile dans notre métier. J'avais aussi ma ficelle ? Parfaitement. Vous ne pouviez passer dans le corridor sans faire résonner le petit timbre qui m'a donné l'éveil. Chef, vous êtes admirable. Vous comprenez, mon bon Prosper ? Je vous ai doté d'appareils que vous reconnaissez très ingénieux, mais j'en connais les avantages et aussi les défauts. Très juste. C'est moi qui ai confectionné, établi le réveil matin silencieux sur lequel vous avez compté pour vous éveiller sans que je puisse l'entendre. En effet, chef. Donc, comme je me doutais qu'après les fatigues de ces derniers jours et nuits, vous prendriez quelques heures de sommeil, comme je pensais que vous seriez forcé d'avoir recours au réveil que je n'entendrais pas, je devais prendre mes précautions pour ne pas vous manquer. Le réveil matin silencieux dont on se servait parmi les hommes de Martin Huma était destiné à réveiller celui qui avait besoin de l'être, sans que toute la maison fût réveillée en même temps par la sonnerie du réveil. Et la modification était d'une simplicité enfantine. Encore fallait-il l'imaginer et l'adapter avec quelque chance de succès. Voici en quoi ce réveil silencieux consistait. Tout d'abord un réveil ordinaire, mais un réveil d'un mécanisme précis, solide et sûr, sur lequel, contrairement à tant d'autres, on pouvait absolument compter. Martin Huma avait enlevé la sonnerie, et à la place de la sonnerie, il avait adapté un bouton électrique. Quand l'heure du réveil arrivait, un commutateur était déclenché et entré en fonction. Le réveil était relié à une petite pile sèche. De la pile partaient les fils. Ces fils aboutissaient à une sorte de collier qui pouvait s'adapter au cou d'un homme, s'attacher au bras ou à la jambe. Dans ce collier, une série de petites pointes étaient dissimulées. Quand le commutateur actionnait la pile, ces pointes s'électrisaient et aussitôt la partie du corps où était adapté le collier ressentait le picotement incessant, vif, irrésistible que procure le courant électrique. Ce picotement ne finissait que quand le dormeur s'est élevé pour aller arrêter le commutateur. Pas plus compliqué, pas plus difficile. Le dormeur était éveillé forcément, il sautait à bas de son lit, et personne autour de lui ne pouvait se douter que le réveil matin silencieux fonctionnait éperdument. Par conséquent, reprit Martin Huma, comme il se pouvait que vous eussiez la fantaisie, une fois réveillé sans que je le sache, de vous en aller sans me prévenir, je devais être, malgré vous, averti de votre départ sans que vous puissiez vous en douter. Depuis que je vous ai causé cette surprise, vous êtes tout troublé. Voyant que je connaissais la première partie de votre complot, vous ne doutiez pas que je ne puisse connaître toutes les autres. C'est vrai. Alors, machinalement, vous plaçant à mon côté, vous avez cru me suivre alors que je vous suivais, au contraire. J'avais pour me guider la direction de vos yeux, qui malgré vous se tournaient vers le but. D'ailleurs, le chemin n'est nullement compliqué, nous allons en forêt. Une fois passés les deux ou trois carrefours où nous aurions pu bifurquer, nous voici sur la route qui mène à la table du grand maître. Oui, c'est un point admirable, qui peut en effet servir de lien de ralliement, de concentration à une bande. Martin Huma conclut. Encore une fois, mon bon Prosper, je viens de vous montrer comment prêtre sorcier a fort bon compte. Les trois hommes se remirent en marche. Peu après, ils arrivaient aux alentours de la fameuse table. Attention, fit Martin Huma. Maintenant, nous ne sommes plus des forestiers qui font leur ronde du matin. Nous sommes des chasseurs. Nous avons affaire à un gibier malin, dangereux, terrible, qui saura se défendre. Il s'agit de ne pas faire de faux pas. Et comme nous ne savons pas ce qu'il y a encore, soyons prudents. Écoutons, regardons. Le meilleur moyen de bien agir est de savoir ce qu'on doit faire. Les trois détectives alors abandonnèrent la grande route. Ils entrèrent dans les taillis et marchèrent avec les plus grandes précautions. Prosper avait dit en chemin « Philippe m'a prévenu, je serai à la table. Venez dans les environs. En cas de danger, je ferai notre signal d'appel. Vous me répondrez de même. » Donc il n'y avait qu'à regarder. Philippe allait de son côté en faire autant. On ne devait pas chercher à le trouver, à le joindre dans les taillis où il pouvait se tenir en observation. Il fallait tout simplement le laisser faire et se tenir prêt à courir à son signal s'il le donnait. Cependant, Martin Huma, plus on approchait du but, plus il s'inquiétait de n'avoir pas encore eu la sensation qu'on se trouvait en contact avec l'ennemi. On n'avait aperçu personne dans les taillis, aucun promeneur, aucun touriste, aucun garde. « Étrange, étrange, faisait-il. Êtes-vous sûr, Prosper, que Philippe n'a pas confondu le lieu du rendez-vous de ces gens ?»«
Je ne crois pas, chef. Je lui ai fait la même observation et il m'a répondu qu'il en était sûr, qu'il avait bien entendu, bien compris.
Voyons alors. » Tout à coup, des ronflements de moteur arrivèrent sous les arbres jusqu'à Martin Huma et ses compagnons.
« Ah ! » fit le roi des détectives. « Ils viennent en auto. »
Le roi des détectives et ses deux compagnons alors s'avancèrent plus rapidement. Dans le taillis, ils n'avaient vraisemblablement rien à craindre et également rien à voir. C'est sur la route que la scène devait avoir lieu. En effet, autour de la table du grand maître, trois ou quatre automobiles étaient arrêtés. Il s'y trouvait même deux motocyclettes que deux hommes tenaient en main. La réunion semblait finie, car au moment où Martin Huma arriva à quelques pas de la route, se tenant encore par prudence sous les arbres, à l'abri, les gens qui se trouvaient là montaient dans les autos et les autos partaient l'une après l'autre. La route, depuis la table du grand maître, s'étend tout droit, admirable, douce, roulante, vraie route pour la vitesse. Une dernière automobile, déjà chargée de monde cependant, demeurait là, ainsi qu'une des motocyclettes. Les touristes eurent l'air de discuter entre eux. Ils consultèrent une carte. Puis l'un d'eux se détacha et vint un peu en arrière, comme pour regarder la route, se rendre compte de la direction. La motocyclette s'était mise doucement en marche dans une direction opposée et de nouveau s'était arrêtée. Celui qui la montait tourna sa machine et la remit dans la première direction. En selle, il semblait attendre pour prendre son élan et repartir. Le touriste, qui s'était détaché de ses compagnons, avait abordé un garde forestier, lequel précisément apparut à ce moment et se mit sur le rebord du chemin, comme voulant assister au départ de la voiture. Le touriste souleva sa casquette et poliment demanda à ce garde forestier le renseignement sur lequel tout à l'heure il discutait avec ses compagnons. Le garde forestier écouta la demande et se mit en demeure d'y faire réponse. C'était naturellement sur un point d'excursion, sur un chemin à prendre. Tandis qu'il donnait très consciencieusement les renseignements au touriste, qui écoutait avec une attention extrême, le motocycliste s'était remis en marche. Il arrivait à vitesse assez grande vers le groupe que formaient le touriste et le garde forestier. Ce garde forestier, on l'a deviné, n'était autre que Philippe, qui, pour mieux remplir sa mission, se croyant bien caché sous son costume, se montrait, se mêlait pour ainsi dire à ces singuliers touristes. Le motocycliste arriva à la hauteur de Philippe et de son interlocuteur. Tout à coup, le motocycliste poussa un cri strident. L'homme qui parlait au garde se baissa promptement, s'aplatit contre terre. Quelque chose passa au-dessus de lui et se déroula autour du garde. En même temps, le garde poussa un cri, étendit les mains, les porta à sa gorge, mais trop tard. Il tombait à terre et était entraîné par la motocyclette qui maintenant filait à toute vitesse. Le motocycliste, avec une adresse prodigieuse,
venait de lancer à Philippe un lasso qu'il avait saisi par le cou. Le lasso était attaché à la selle de la motocyclette qui, très puissante, enleva comme une plume le malheureux saisi par le lasso et l'emporta, le traînant sur la route. Le touriste s'était relevé. « Hourra ! » cria-t-il. « Hourra ! » De l'automobile, on cria également. « Hourra ! » L'automobile se mit en marche aussitôt. Au passage, le touriste sauta dedans et fut emporté. « Hourra ! » Mais presque aussitôt, un coup de feu retentit, venant de dessous les arbres. Le motocycliste poussa un cri, lâcha le guidon et, avec la machine, alla s'abattre dans un fossé. L'automobile qu'il avait rejoint s'arrêta. Deux hommes en descendirent. Rapidement, ils s'emparèrent du motocycliste et le portèrent dans la voiture. Eux, ils s'y précipitèrent ensuite. La voiture reprit sa course folle, saluée par quelques coups de feu qui ne durent pas être perdus. Julot venait, une fois encore, de montrer son adresse admirable. Depuis un moment, Martin Huma, ayant reconnu tout de suite son lieutenant et ayant deviné le danger qu'il courait, se précipitait à son secours sans attendre, comme il était convenu, le signal du danger. Philippe était en péril, et lui ne pouvait s'en douter. Il se croyait, lui, bien à couvert, alors que ceux qui l'épiaient l'avaient reconnu et le jouaient. Et le coup du lasso était admirablement exécuté. La nouvelle bande débutait par un coup de maître. Elle portait à Martin Huma un coup sensible dans la personne de son lieutenant. C'était une victoire. Et dans l'automobile, il pouvait crier « Hourra !» Mais encore une fois, leur triomphe ne devait pas être de longue durée. Car presque aussitôt, Martin Huma prenait sa revanche. Les bandits croyaient traîner ainsi sur la route, telle une misérable loque, le cadavre de Philippe, étranglé par le lasso et emporté par la motocyclette. Mais la course du lieutenant du roi des détectives n'avait pas été longue. Et eux, les bandits, ils emportaient dans leur voiture un blessé, un mort peut-être, et l'on ne pouvait savoir comment s'étaient placées les autres balles du revolver de Julot qui ne manquaient jamais leur but.